La première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi. Par où dire ?
Nous sommes dans un hôpital, Raphaël de Bruyn.
On voit bien que quand il y a eu au Moyen-Âge ou encore au XVIIe siècle et puis au XIXe siècle de grandes épidémies, ça a été la peste, ça a été le mal des ardents, le feu de Saint-Antoine, l'ergotisme, puis ça a été le choléra par exemple encore au XIXe siècle, on voit bien que dans ces périodes d'épidémie, si j'ose dire, l'être humain il perd un peu la tête, parce qu'il a peur. Et c'est la peur qui le gouverne. Et quand la peur le gouverne, il est prêt à faire n'importe quoi. Tous les égoïsmes ressurgissent évidemment.
Des artistes.
À Lessing, à l'hôpital Notre-Dame à la Rose, jusqu'au 10 mars, Petite mort et grande vertu.
La douceur.
Une exposition qui se tient concomitamment avec celle de Lessing et qui se terminera.
Alors, Lessing se termine le 10 mars et moi je termine cette exposition-ci le 17 mars. Voilà, ma galerie étant toujours ouverte du vendredi au dimanche. De 13 à 18h30.
À la galerie Marie-Ange Boucher, jusqu'au 17 mars, Imagine Your Life.
Éternel.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Allez, au cinquième.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture,
le monde invisible.
Et cette musique qu'on entend,
oui.
C'est vous qui l'avez choisie ?
C'est un choix de nous. Il y a plein de sons aussi différents qui allaient très bien avec la douceur, ou justement qui n'allaient pas très bien, qui nous interpellaient par rapport aux douceurs.
Régine Van Damme.
Écrivaine ?
Oui. En fait, mon point de départ, c'était... Quand j'étais en interview pour mon travail d'écrivain, souvent les gens demandent « Et comment ça se passe ?» Et vous écrivez à quel moment de la journée, etc. Enfin, donc c'était plutôt la fabrication de la création, mon point de départ. Bon, alors après, c'est aussi mon regard d'amis de Christian et Véronique. Et ils m'ont associé dès qu'ils ont pris la décision d'intervenir ici dans le lieu. Ils m'ont dit « Voilà, on aimerait travailler avec toi. » Parce que à la fois ils avaient une envie qu'un livre accompagne l'exposition, mais en même temps ils avaient aussi envie que je les accompagne dans la conception.
Avec les artistes Véronique Pop et Christian Rollet.
J'essaierai de tenir un propos cohérent sur le lien entre le travail du duo Christian et Véronique et le travail dans le musée, les préoccupations du musée en liaison avec les leurs et puis en liaison avec l'évolution du monde dans lequel on vit et le lien qu'on peut essayer de faire entre le projet qu'on défend au niveau du musée, la manière dont on essaye d'accueillir et de sensibiliser nos visiteurs à des grandes thématiques comme la vie, la mort, les duos, parce qu'il y a plein de duos dans le musée aussi. Il y a eu un duo de fondateurs, il y a eu le duo entre la richesse des fondateurs et la pauvreté de ceux et celles qui étaient accueillis ici.
Avec Raphaël de Bruyn.
Et puis il y a le duo aussi des religieuses, épouses, mystiques du Christ. Enfin, il y a le duo entre les bienfaiteurs de l'hôpital au cours des siècles et le personnel et les malades. Et puis aujourd'hui, il y a le duo entre l'équipe du musée et ses visiteurs, l'équipe du musée et les artistes qui y travaillent. Enfin, il y a plein de liens qu'on peut faire.
Essayer de raconter une histoire.
Régine Van Damme.
C'est de là qu'est née l'idée d'un parcours, puisque eux, ils n'avaient pas envie de mettre des œuvres partout. Ils voulaient aussi respecter le parcours des visiteurs qui viennent pour le musée et non pas pour leur exposition. Donc leur idée, c'était de ne pas investir la totalité du lieu, mais de ponctuer le lieu de leurs interventions.
Et Raphaël de Bruyn, vous ne dites pas le duo du Christ féminin ?
Ah oui, si, j'aurais pu le dire aussi. Oui, si, évidemment, l'image du Christ... qui symboliquement est porteur de toute la condition humaine. Et donc cette condition humaine, c'est évidemment à la fois l'homme et la femme. Et donc il y a le féminin et le masculin, avec à la fois ce féminin et ce masculin qui sont réprimés par moments et qui à d'autres moments vont s'exprimer. Et donc il y a cette espèce d'antithèse au sein de la vie d'une religieuse ici, entre sans doute pour une part des sentiments amoureux qui sont parfois réprimés, qui à d'autres moments sont mis en valeur à travers une posture mystique. Et il y a bien sûr tous ces éléments-là qui peuvent aussi entrer en ligne de compte.
Alors on est parti un peu dans l'univers religieux, puisque c'est quand même un lieu qui est très très chargé religieusement parlant.
À Lessing, à l'hôpital Notre-Dame à la Rose, jusqu'au 10 mars.
Il était une fois deux artistes qui ont eu envie de travailler l'un avec l'autre, l'un sur l'autre, l'un à travers l'autre. Et donc c'est ça que j'ai trouvé très puissant chez eux.
Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genico. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. Vous montrez, Marie-Ange Boucher, dans votre galerie, une vidéo dont les auteurs sont
Christian Rollet et Véronique Pop, et ils sont aidés de Denis Glynn pour la réalisation de la vidéo. Elle est basée sur le mouvement. On y voit une danseuse professionnelle, l'amie de Véronique, et des vols du tourneau. Jusqu'au mur à l'italienne que vous allez découvrir dans le fond de ma salle, qui est aussi en forme d'un vol du tourneau, on pourrait appeler ça comme ça.
Et l'histoire qu'ils disent, quelle est-elle ?
On n'oublie rien du passé de ce lieu. On n'oublie rien de la vie de ces femmes qui se sont succédées ici, génération après génération, et qui ont œuvré pour le bien, la charité et l'aide aux autres. On n'oublie rien de cela parce qu'aujourd'hui, on est aussi encore dans des questions comme celle-là. Comment aider les autres ?
Oui, car ce Christ féminin a été dévoilé.
C'est une image qui était bien présente dans les iconographies médiévales. On retrouve cette image d'un Christ père et mère, d'un Christ porteur de toute la condition humaine dans des vitraux, dans des enluminures médiévales. Et puis on retrouve encore ces images-là à la Renaissance. On a même des tableaux encore qui ont été peints au début du XVIe siècle, où on voit même parfois une Vierge à l'enfant avec la Vierge Marie qui tient un enfant Jésus sur ses genoux. Et cet enfant Jésus, déjà lui, à ce moment-là, il a un sexe masculin et il a une poitrine féminine. On avait encore cette iconographie, même au niveau de l'enfant Jésus, au début du XVIe siècle. Et puis progressivement, c'est une iconographie qui, sans doute, avec la contre-réforme, va disparaître et qu'on va effectivement, dans le cas du tableau conservé au musée, qu'on va retrouver parce qu'il y aura la restauration de ce tableau et qu'à la restauration, on se rendra compte qu'il y avait eu un surpeint sur la poitrine et qu'en décidant d'effacer le surpeint, on va retrouver l'œuvre d'origine avec effectivement cette poitrine féminine présente sur le corps du Christ. Et c'est un Christ qui est veillé par les saintes femmes. Ça, c'est important aussi. C'est un corps abandonné aux mains des saintes femmes. Ça montre aussi ce lien entre Jésus et ses disciples féminines et sa mère.
Comment faire valoir les valeurs du lieu, qui sont aussi des valeurs qu'ils portent eux en tant qu'artistes, en tant qu'humains.
Vous êtes-vous rendu à Lessing ?
Oui.
Marie-Ange Boucher.
Oui, petite mort et grande vertu. Oui, j'ai vu. Alors, je trouve qu'ils ont, en collaboration avec Régine Van Damme, parce que ça, il faut le dire, écrivain, vraiment bien intégré les lieux en fonction de ce que c'est le couvent, l'imaginaire. Là, ils sont rentrés dans l'imaginaire des religieuses qui faisaient vœux en entrant et consacraient leur vie à ça. Ils sont rentrés dans cet imaginaire tout en tenant compte aussi des règles.
Et cet écho, cet aller-retour entre le passé du lieu et l'aujourd'hui, un espèce de pont entre ici nous sommes dans un lieu fermé et eux ils viennent de l'extérieur. Et donc c'est cet aller-retour aussi.
Raphaël de Brun, vous avez évoqué dans la présentation une époque que nous vivons qui est une époque de peur. Vous pensez à quoi ?
D'abord, ce qui est une évidence, c'est la peur de l'autre, évidemment. La peur de la différence, la peur de celui qui est différent. On est arrivé, je pense, tout doucement à une situation qui est paradoxale parce qu'on n'a jamais eu autant de moyens qu'aujourd'hui pour pouvoir faire connaissance avec l'autre, pour pouvoir le rencontrer, pour pouvoir comprendre son vécu, ses préoccupations, ce qu'il fait vivre, ce qu'il fait avancer. Et en même temps, malgré tous ces moyens modernes de communication, d'échange, de dialogue, la qualité du dialogue ne semble pas toujours s'améliorer. Et donc on est dans une société où de plus en plus la vision de l'homme est une vision qui passe uniquement par une forme de valorisation qui est liée au travail, qui est liée à l'argent que ce travail peut rapporter. Et donc évidemment, tous ces contextes de peur qui sont là, parce que s'il y a peut-être le risque de perdre son travail, s'il y a le risque de ne plus gagner suffisamment d'argent, s'il y a le risque d'être confronté à l'autre, à sa différence, aux doutes et aux incertitudes que l'autre peut faire naître en nous, on risque de perdre notre stature, ce qui est censé faire notre force. Et donc, alors que le doute devrait être une des vertus fondamentales qui devrait gouverner le monde, on a un monde aujourd'hui où, de plus en plus, on nous propose d'être confis dans nos certitudes. Et donc, cette situation-là, c'est une situation qui, évidemment, engendre la peur. Et quand je pose une réflexion, parfois, sur le monde de l'hôpital et le monde médiéval, on avait, à l'époque où l'hôpital est né, au XIIIe siècle, pour beaucoup d'individus, le monde s'arrêtait à leur ville ou à leur village. L'ennemi, celui qui était différent, ça pouvait être celui de la ville voisine. Et puis petit à petit, au cours du temps, le monde s'est ouvert et on a repoussé la limite, on a repoussé la frontière et on est passé par des errements terribles. De la ville et du mouvement communal, on est passé au comté, au duché, aux évêchés. Puis on est arrivé au pays, au nationalisme. Et on a connu les guerres de religion, on a connu les guerres liées au nationalisme. Et puis on s'est dit, ça y est, cette fois-ci, on a compris. On fait l'Europe. On a compris qu'il faut arrêter le nationalisme. On a compris qu'il faut arrêter tout ça. Et puis aujourd'hui, l'Europe, elle est remise en question. Aujourd'hui, on revient vers les frontières. On revient vers cette situation où, alors qu'on aurait pu rêver comme Erasme à être des citoyens du monde, aujourd'hui, on a bien plus qu'Erasme. Quand Erasme partait en pèlerinage à Rome, ça lui prenait 3 mois. Aujourd'hui, on a l'avion low cost qui nous permet en une journée de faire l'aller-retour de Rome. Mais cependant, on est peut-être aussi éloigné des préoccupations de l'Italie, ce pays fondateur de l'Europe comme nous. On est peut-être aussi éloigné des préoccupations de l'Italie que nous pouvions l'être à l'époque du Moyen-Âge ou à l'époque d'Erasme. Donc tout ça, moi, je trouve, est extrêmement interpellant. Et donc, il y a toutes ces dimensions-là qui sont liées aux dimensions de peur dont je parlais. Et il y a toute cette manière, effectivement, de ne pas vouloir être dérangé, en quelque sorte. Et donc, d'avoir besoin d'être confié dans ses certitudes. C'est un peu tous ces aspects-là qui sont aujourd'hui très, très préoccupants. Et qui sont même très préoccupants dans notre monde des musées, parce qu'on se demande clairement... Comment est-ce que nous autres conservateurs de musées, comment est-ce que nous, équipes de musées, comment est-ce que nous, équipes de musées qui veillons sur un patrimoine, comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que ce patrimoine soit au service de la société? Comment est-ce que ce patrimoine, ces objets, comment est-ce qu'on peut essayer de les faire vivre, de les mettre en vie pour faire en sorte que finalement, ils permettent à nos contemporains de comprendre à nouveau là où se trouve l'essentiel, là où se trouvent les dimensions qui sont les vraies dimensions fondatrices de l'homme et de l'humanité. Et donc tout ça est effectivement aujourd'hui bien inquiétant, bien préoccupant par moment, mais enfin, je pense que fondamentalement, il faut essayer de garder espoir. Hein. Dans les vertus théologales qui sont exprimées dans un hôpital comme celui-ci, il y avait la foi, l'espérance et la charité. Bon, j'ai tendance à mettre un peu la foi de côté, parce que la foi, c'est quelque chose de personnel qu'on a ou qu'on n'a pas, mais ça ne suffit pas à décider d'une vie. Mais l'espérance et la charité sont deux de ces trois vertus théologales qui me tiennent à cœur, parce que, oui, continuer à espérer dans l'évolution positive des choses et dans l'homme, et puis le faire peut-être aussi avec cette forme importante de lien humain qui est la charité, qui a été, quand l'hôpital a été créé, l'idée de la charité chrétienne, et qui peut être aujourd'hui une manière différente de vivre et de concevoir la charité. Mais la charité, c'est ce lien à l'autre, c'est l'attention à l'autre, c'est la préoccupation pour l'autre. Et donc cette préoccupation à l'autre, chez nous au musée, elle commence par l'attention à apporter aux visiteurs, l'attention à apporter au patrimoine qui nous est confié, l'attention à apporter aux œuvres d'art qui se trouvent ici. Mais tout ça doit avoir un sens. C'est pas juste conserver un patrimoine pour le conserver, c'est aussi pour faire en sorte que ce patrimoine soit un formidable outil utile à la société.
Et si je vous dis petite mort, vous pensez à quoi ?
À moi, je pense à l'orgasme féminin. Pour moi, ça c'est évident. On a choisi le titre ensemble. Et au départ, pour moi, petite mort, c'était au pluriel. Et grande vertu aussi. Voilà, Christian a insisté pour que ce soit petite mort. Je trouvais que c'était très bien parce que voilà, il y a chez Christian toujours un petit côté sulfureux quand même aussi, même si leur travail ici respecte éminemment le lieu, l'esprit du lieu, l'histoire du lieu, il y a quand même dans beaucoup des œuvres ou des installations, ou des vidéos ou des défilants, des petites allusions un peu ambiguës, etc. Donc petite mort, oui, pour moi c'est l'orgasme féminin et ça prend tout son sens par rapport à la vie de ces femmes qui choisissaient ou ne choisissaient pas, parce que certaines arrivaient ici, elles choisissaient de prendre le voile, mais d'autres arrivaient ici parce que c'était la décision de la famille aussi. Donc on peut imaginer que des jeunes filles qui devaient renoncer à tous les signes extérieurs de la féminité conservaient quand même des aspirations sensuelles ou charnelles, et que donc, c'était sans doute quelque chose à quoi elles étaient confrontées et qui était un grand interdit religieux. Ensuite, il y a aussi cette dévotion à Jésus, cette figure masculine, etc. Donc oui, moi je trouvais que c'était très puissant en fait, et un peu provocateur.
Règles de la charité et d'autres grandes notions chrétiennes, des valeurs chrétiennes. Et donc il y a 14 stations qui sont les 14 vertus, comme par exemple la générosité, c'en est une, il y en a beaucoup. Et c'est dans ces pièces-là qui ont été choisies que les artistes ont investi les lieux, toujours en duo.
Nous sommes ici devant une des alcôves qui restitue un peu une chambre d'une sœur augustine. Je pense que ça devait être probablement même la chambre de la mère supérieure. Désolée, je n'ai pas beaucoup d'éducation religieuse.
C'est un qui commence, un autre qui investit, mais ça peut être l'inverse. Et tout ce qu'on peut dire en vertu des œuvres qui sont visibles dans la galerie, c'est qu'on pourrait dire que Véronique Pop est figurative et que Christian Rollet est un peintre abstrait.
Ce que nous voyons ici, c'est un lit d'une personne en bois un peu ouvragé avec une couette blanche. L'alcôve fait 2,50 m sur 2,50 m. On voit à la fois au sol des reproductions d'une image pieuse, un peu sous format polaroïde comme ça, il y en a, je ne sais pas, 20-30 qui jonchent le sol. Et alors au mur, on a d'une part sur le mur du fond une installation vidéo qui reprend un des dessins du duo, où on peut quand même, je pense, très aisément interpréter que le visage qu'il représente est un visage de femme. Elle a les yeux fermés, la bouche légèrement entrouverte, et pour moi, l'image représente la femme au moment de l'orgasme. À côté de ce dessin, dans cette image vidéo, il y a une bougie ou un cierge qui brûle, qui est aussi un des symboles de la religion, comme cette présence éternelle.
Raphaël de Bruyn, qui sont les artistes invités qui sont originaires de la Wallonie Picarde, à savoir vivant à Tournai?
Il s'agit de Christian Rollet et de Véronique Pop, deux artistes qui partagent aussi non seulement un travail de création, mais qui partagent aussi une vie commune, une vie commune quotidienne. Donc c'est un duo, mais c'est un duo intellectuel et aussi un duo affectif. C'est un couple dans la vie.
Sur le mur qui fait face au lit, il y a toute une série de portraits, des dessins toujours, qui ont tous un point commun, cet instant précis de l'extase, qu'on a parfois déjà vu en photo, mais c'est vraiment un instant qui dure peu de temps. Et donc, en fait, ici, voilà, on a une petite dizaine de dessins. C'est intéressant aussi, à la fois des visages dont on se dit que ce sont bien des femmes, et d'autres, on s'interroge. Est-ce que c'est un garçon manqué? On ne sait pas très bien. Et donc ça, c'est aussi cette question de l'androgynie qui est véhiculée dans toute l'exposition ici, à l'hôpital Notre-Dame-la-Rose.
Et ce que vous ne dites pas, c'est que...
Ah oui.
En vous écoutant, je m'appuyais sur
un prie-Dieu. Tout à fait. Voilà, c'est une invitation aux visiteurs, en fait, à s'agenouiller peut-être, à se recueillir.
Petite mort et grande vertu.
Oui, oui. La petite mort, ça peut être à la fois la mort qui attend celui ou celle qui est venu ici parce qu'il est malade, affaibli, parce qu'il n'a plus de ressources et qu'il a été amené ici pour trouver ici la bonne mort, comme on le disait au Moyen-Âge. Et donc ça peut être une petite mort, une mort calme, une mort simple, entourée du secours de l'Église et de la religion. C'était l'idée de la bonne mort au Moyen-Âge. Il fallait mourir en ayant pu se confesser et communier. C'était fondamental dans la société de l'époque. L'hôpital jouait ce rôle-là. C'était le lieu où celui qui n'avait plus de famille, plus d'amis, plus d'argent, pouvait quand même venir mourir dignement, en étant entouré, en étant protégé et en ayant reçu les sacrements, l'extrême onction, en ayant pu se confesser et communier. Donc ça peut être cette mort-là.
Et je pense à ce que Régine Van Damme, ce que vous dites, à la Vierge Marie, je dis Vierge Marie, qui enfantait l'enfant Jésus et qui l'a conçu, elle, un ange.
Ah, c'est l'Esprit, c'est Dieu qui envoie l'archange Gabriel pour effectivement annoncer à Marie qu'elle va porter le Fils de Dieu. C'est le souffle divin, c'est toute la thématique de l'Annonciation et de l'archange Gabriel, où on représente par une sorte de faisceau de lumière qui vient depuis le ciel. Enfin, oui, donc c'est... Oui. On voit le rayon céleste qui vient et qui est là de manière simultanée avec l'annonce faite par l'archange. Donc,
Ils n'ont pas de sexe.
Non.
Donc on est dans une impasse quand même.
Oui, oui. C'est un des mystères de la foi.
Oui. En tout cas, c'est une sacrée bonne histoire, parce qu'on continue à en parler.
Oui, hein, oui, c'est vrai.
Après toutes ces années. Oui, oui. Station 1, le courage. Ce que je désire existe, si j'ose le trouver. Jeanette Winterson.
Mais la lumière changeante, c'est aussi des cadeaux. Parce que quand on regarde tout à l'heure, il y a plein de confettis au mur ici, les beaux vitraux qui sont sur le mur, qui complètent. Et après, du rouge, et puis le rouge sur la statue de Vierge, toute blanche. Et à la fois aussi une espèce de sérénité, une envie de méditer dans un lieu qui est quand même, qui devrait être une chapelle.
Oui, et puis, il faut avouer aussi que le fait d'agir avec des images mouvantes, en parlant de mapping, de les intégrer sur un micelle, les intégrer dans un cadre, fait que tout à coup, on vit une époque d'événements, donc il faut créer d'un certain moment d'événements pour capter le spectateur. Surtout dans ce genre de lieu où les objets, où le nombre d'objets, où la charge, en même temps affective, physique ou spirituelle, des objets tellement fortes, si on passe à côté de ça avec une œuvre mineure, peu importe sa qualité, les gens vont passer au-dessus sans la voir.
Station 2, la tolérance. Je ne sens pas que mon âme est un sexe. Prenez-moi donc pour un homme ou pour une femme, comme vous voudrez. Prenez-moi pour une amie, frère et sœur à la fois. Frère pour vous rendre des services qu'un homme pourrait vous rendre. Sœur pour écouter et comprendre les délicatesses de notre cœur. George Sand.
C'est Régine Van Damme.
Madame, oui. Elle était déjà dans des associations, des services comme la Chaux auparavant, attachée à la Maison de la Culture. Moi, je passais souvent à la Maison de la Culture. À l'époque, je m'occupais en tant que scénographe de la Triennale des Arts Textiles. Et son bureau était juste à côté. Je savais que c'était une excellente plume, un très bon auteur. Et puis voilà. Et après, au fil des années, elle a logé chez nous. Elle était juste à côté. Donc l'amitié s'est sans cesse renforcée. Et elle est très proche des arts plastiques, des visites.
Alors, elle me montre des fruits qui sont dans une vitrine ici à côté de nous. Vous pouvez les décrire, ces fruits ?
Christian, il adore faire sécher les fruits quelconques chez nous.
Mais avant, j'adore les poires.
Il adore les poires et tout ce qu'il ne mange pas. Il les fait sécher. Après, il y a une esthétique qui revient. Et du coup, en fait, l'objet, et ça on adore dans beaucoup d'objets, devient autre chose, reçoit une autre vie, et hors du contexte, on peut imaginer plein de choses. Et donc voilà, en particulier ici, toute la série de poires en stades différents, ça nous faisait penser à des morceaux de
corps humain.
C'est très sexué d'ailleurs, voilà, parce qu'on y a un côté repli, très vaginal dans cette
manière. Voilà, le vagin.
Sauf la couleur, hein, qui est une couleur comme ça, très usée, très bois, on dirait presque un côté fossilisé. Voilà.
C'est une complicité, c'est un échange, c'est sentir l'autre avant, je veux dire. C'est quelque chose qui n'est pas au premier niveau, mais qui va derrière. Et c'est ça qui est tellement beau, c'est une osmose dans la rencontre d'un homme et une femme. Mais en même temps, si on regarde chacune des œuvres ici, on les reconnaît chacun, personne ne perd son identité.
Mais c'est chouette de jouer justement avec ça. De montrer des choses qui pour nous, voilà, c'est pour ça qu'elle est aussi en série et en phase différente, nous fait justement penser côté sexué et de l'autre côté, voilà. On ne veut rien imposer. Les gens qui ne voient pas, ils ne voient pas. Ce n'est pas grave. Ils se demandent qu'est-ce que ça fait ici. Et donc, en plus, c'est dans la vitrine où on met obstrite. C'est très tric. Donc, du coup, je trouvais que ça avait vraiment sa place.
Il y a un côté métempsychose, transformation, d'un fruit qui est l'emblème aussi du paradis terrestre, qui devient mort, qui devient pourriture, redevient paradis.
Mm-hmm. Ouais, c'est bien dit.
L'observation et la transformation de quelque chose jusqu'au stade de final est quelque chose qui m'a toujours interpellé, parce qu'il y a des stades étonnants, et des stades étonnants comme les globules, les cellules ou autres, qui au niveau artistique sont vraiment un monde de formes. Je l'ai séché pas mal de fruits, parce que les formes que séchés ils engendrent sont pour moi des éléments comme ça formels que je peux redessiner, y compris l'intérieur de coloquintes ou de potirons séchés qui se racrapotent sur eux-mêmes. C'est un monde, quoi. La pourriture, c'est un monde.
Oui, je pensais aussi.
C'est un monde du vivant aussi.
Oui, car vous parlez de potirons qui sèchent, on récupère quand même les graines qui deviennent des semences, du fertile à nouveau.
Maintenant, la petite mort, ça peut évidemment aussi être une manière de faire allusion à l'orgasme.
La vertu humilité dans ce monde médical, en même temps chirurgical et autres, avec tout ce que ça peut avoir à un certain moment d'avancement grâce aux guerres, parce qu'on n'a jamais autant avancé que grâce aux guerres napoléoniennes, y compris la guerre 14-18, et 40, et c'est pas fini, je crois. L'humilité, c'est aussi le monde de la médecine, et de la pharmacie, la pharmacologie, et des médecins, des chirurgiens, en disant, voilà, moi je ne peux faire que ça, pour le moment. Donc, humblement, je peux vous sauver, mais je dois agir pour vous sauver, ou vous amputer, ou faire... Et c'est dit. Donc c'est peut-être pour ça qu'à un certain moment, certains dessins ici sont présents, ou certaines formes sont présentes.
Maintenant, la petite mort, ça peut évidemment aussi être une manière de faire allusion à l'orgasme. Là, on rejoint évidemment tous les liens qu'il peut y avoir dans l'extase mystique, par exemple. La manière pour les religieuses de transcender une forme de solitude, de transcender une forme de solitude affective, c'est bien sûr ce mariage mystique avec le Christ. Et ce mariage mystique avec le Christ, on le voit à travers certaines de nos œuvres d'art, mais on le voit aussi à travers de grandes œuvres d'art qui sont des monuments de l'histoire de l'art. Si on songe à l'extase mystique de Sainte Thérèse du Bernin à Rome, on voit bien qu'il y a cette dimension aussi d'extase mystique qui peut être présente. Donc cette petite mort, ça peut aussi être une allusion à cette dimension-là, à ce lien spirituel qui est tellement fort qu'il y a cette extase mystique, évidemment.
En fait, une des raisons pour laquelle on était fort atterré par rapport au musée, c'était justement tous les objets médicaux. Parce que nous, à la maison, on a une collection énorme d'objets médicaux, des livres médicaux. Il y a plein d'images que je retrouve ici, que j'ai chez moi.
Il collectionne... Dans les brocantes, ils les laissent dans leur pourriture.
Ah oui, ça aussi. Les images, les anciennes images, les photos des corps transformés, par exemple ici des mains transformées. Mais moi je trouve ça beau. C'est une beauté qu'on ne voit pas peut-être au premier vue, mais que quand on observe et on essaye d'oublier nos préjugés, c'est beau. C'est justement beau et j'adore de travailler là-dessus.
C'est une beauté sculpturale comme les objets chirurgicaux. Moi, je suis fasciné parce que c'est de la sculpture parfaite. En même même temps, c'est ingénieux, c'est inventé haut, mais plastiquement, certaines choses, c'est aussi beau que des Brancusi, hein, dans la manière dont c'est réalisé.
Tout est fait à discrétion. Sur certaines, là, il y a un livre, une ancienne couverture de livre. Parce qu'en fait, Christian Rollet, depuis des années, collectionne et fait toutes les brocantes, tout ce qui est ancien, récupère tout. Ça va du livre aux objets, et aux grands objets même, aux meubles, tout. Et en fait, quand on va dans son atelier, on a l'impression d'arriver à l'envers d'un décor de théâtre. On est vraiment dans les coulisses, on a l'impression que c'est ça. Mais ça veut dire qu'ici aussi, sur les papiers qu'ils emploient, on trouve des anciens cahiers, on trouve des vieux papiers, on trouve des couvertures de livres sur lesquelles ils se sont réinvestis.
À l'origine, c'est la salle des sœurs malades, parce qu'évidemment, les sœurs ne pouvaient pas être soignées avec les autres malades, donc ils avaient leur propre salle. On est dans la salle La Vertu, la Tempérance, qui en fait est née par rapport au fait qu'il y avait un tout petit texte qui était déjà ici. Le plaisir de mourir sans peine vaut bien la peine de vivre sans plaisir. Qui était vraiment ce qui d'abord était demandé aux sœurs, et qui est quand même un texte qui pour nous est super interpellant. Et du coup, voilà, la tempérance était tout à fait à sa place. Et on a essayé de créer, Christian parle aussi, scénographie, un climat. Des personnes qui sont peut-être dans le lit, mais en douceur, on ne sait pas trop. Pour moi, ils ne sont certainement pas morts, mais ils sont en repos. Et puis, au rideau, il y a vraiment le contraste entre la femme qui est en excitation et puis le petit garçon qui dort, est mort, on ne sait pas trop, mais le côté calme. Et je trouvais que jouer là-dessus était très intéressant et donnait une espèce de climat que, de nouveau, le dit et le
non dit. Une petite anecdote, hein. Nous, on le sait chaque fois par rapport à ces mains qui sont un peu des mains, hein, reposoires, comme ça, de manière un peu vivante et autres, donc on crée des plis. Et chaque fois, quelqu'un, sûrement du personnel, un peu comme à l'armée, on tire impeccablement les draps pour les rendre vraiment uniformes. Donc en même temps, on les déshumanise, quoi, alors que nous, on essaie de les rendre au fur et à mesure vivants. Donc, chaque fois, on en revient, on se dit, tiens, je vais quand même créer quelques plis pour qu'au fur et à mesure, ces mains deviennent ce qu'elles sont à l'origine.
Viens, je t'emporterai comme une enfant malade, comme une enfant plaintive et craintive et malade. Entre mes bras nerveux, j'étreins ton corps léger. Tu verras que je sais guérir et protéger, et que mes bras sont faits pour mieux te protéger.
Et on a aussi répondu d'ailleurs à cette phrase dont parlait Véronique par une autre phrase qui est là sur la boîte de radiographie médicale. C'est chaque bout de peau qui pèle, chaque cheveu qui tombe, chaque nom oublié et chaque jour une petite mort. À notre sens, on trouvait que c'était beaucoup plus inclus dans une réalité d'existence qu'une promesse qui pour moi est un peu insensée.
La résurrection ?
Oui, enfin moi je n'y crois pas, je ne suis pas de ce côté-là, donc c'est simple, quoi. Par contre, je suis dans le vivant chaque fois.
Et derrière ce texte, que voit-on ?
Il y a un visage d'une dame, les yeux ouverts. Par ses yeux ouverts descend une espèce de cascade, comme pour signifier une vallée de larmes. D'un liquide, en tout cas, qui coule des yeux et qui par le côté illuminé comme ça à l'arrière devient très 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 prenant parce que les cascades de larmes sont plus présentes que les yeux. C'est interpellant par rapport au texte, c'est une manière de jongler avec les images et les mots aussi.
Tu me donneras la volupté penchée sur moi, les yeux pleins d'une anxiété maternelle, toi qui cherches à travers ton ami passionné l'enfant que tu n'as pas eu. Colette.
Personne ne perd ni Véronique et ni Christian ne perd ce qu'ils sont initialement, mais ils forment un couple et même un couple qui se réunit dans l'expression artistique de ce qu'ils ressentent.
Tout le mur avec les femmes en extase, mais voilà, souffrance, extase, c'est un peu là aussi qui est venu le titre Hein, petite mort, parce que quand on voit toutes les images des saintes...
Oui, moi j'ai toujours été fasciné par la concordance que l'on peut avoir entre certaines images qui étaient faites ailleurs sur les réseaux sociaux ou sur Internet, d'extase, mais d'extase physique, et des martyrs de Saint-Sébastien, où tout à coup on ne sait pas que le corps, son corps transpercé de flèches, il a les yeux aux cieux, les yeux en lune, et on se dit, tiens, est-ce que c'est une extase physique, est-ce que c'est une extase spirituelle, est-ce qu'on exulte de souffrance ou pas? Voilà, c'est un peu ça. Hein.
Oui.
C'est l'éternel problème, d'ailleurs. Aussi,
oui, et ça. Qui se retrouve même dans la photographie.
Bien sûr.
Et alors, ce qui n'apparaît pas dans votre galerie, Marie-Ange Boucher, ni à Lessine, mais seulement sur Facebook, me semble-t-il, c'est l'habitude de Christian Rollet d'envoyer des photographies vers 6 heures du matin.
Oui. Alors, il y a longtemps maintenant que Christian a décidé d'envoyer une photo. Il s'est donné tous les jours. Tous les jours. Parfois, on a même jusqu'à 2 fois par jour. Alors, c'est un homme qui se lève tôt, très tôt, 5h, 5h30 du matin. Il part promener, très souvent avec le chien, sans téléphone. Et il fait des photos. Des photos de ce qu'il ressent. Oui, ça c'est vrai, il fait depuis longtemps. Et c'est seulement quand il rentre vers 9h que la vie, je vais dire, s'allume d'une certaine façon, où il va prendre son petit déjeuner et retrouver la vie du quotidien comme chacun. Mais il se passe énormément de choses dans ses photos et il y a des suiveurs. Hein. Ouais. Alors ici, on trouve de temps en temps des photos, mais pas celles de Christian, mais aussi des photos qui ont été, je vais dire, poncées légèrement. Donc elles ne sont jamais là que dans la suggestion. Jamais autrement. Peut-être que si on examine bien les photos de Christian, que je regarde aussi, il y a un travail sur la matière, on retrouve le peintre. Et puis, sur l'atmosphère, et cette atmosphère, on la retrouve aussi dans cette galerie, à mon avis, dans mon expo.
Je pense au martyr des 100 morceaux, vous voyez, dont Georges Bataille parle,
ouais.
Qui est ce supplicié chinois.
Chinois, hyper, hyper connu, tout à coup, hein, les yeux sont comme ça aussi, alors qu'il est pratiquement démembré, hein, il ne reste pas grand-chose. Hein, et tout à coup, les yeux sont là. Ouais. Ouais. Donc, c'est un peu pour ça que par rapport à la série de dessins là, qu'on a entrepris, il y a un côté récurrent de ce que moi j'appelle les yeux en lune. Sont comme ça. Mais c'est une belle figure aussi en plus. C'est très beau. C'est très beau physiquement, c'est très beau dans la photographie, c'est très beau en peinture. Donc c'est un peu, sans même parler de message, mais de l'imagerie qu'on essaie de faire passer. En plus, à quoi rêvaient les sœurs dans la cellule et le soir dans leur chambre? On ne sait pas trop. Hein.
Elles épousaient le Christ, dit-on.
Oui. C'est ce qu'elles étaient censées faire, oui. Alors après, est-ce qu'elles étaient... est-ce qu'elles y dérogeaient ou pas? Ça, c'est l'humain. Moi, j'aurais tendance à dire que tout en épousant le Christ, le corps est le corps, et que le corps, à certains moments, le corps exulte. Mais enfin, c'est ma manière de voir, ou d'entrevoir, ou d'envisager les choses.
Sûrement quand même que les filles, il y avait quand même des filles qui avaient peut-être un copain ou un amoureux dont la vraie vie était obligée tout d'un coup, parce que ça aussi était forcé pour rentrer pour justement, parce que ça arrangeait pas hein, papa ou maman qu'elle voulait, qu'elle était amoureuse avec telle, donc elle rentrait, donc voilà. Je crois qu'au début, ça prenait quand même beaucoup de temps pour aimer le Christ ou essayer, donc ils aimaient sûrement, ils étaient passionnels sûrement, comme chaque être humain, mais passionnel pourquoi, pour qui, on ne sait pas. Mais je trouve ça justement très beau, parce que le côté humain, c'est ce qu'on voulait dans les deux cellules. Hein, l'autre qui est complètement dans l'émerveillement, la rêve, et tout d'un coup ici, le côté physique, corps,
charnel.
Et comme dit Tertullien, les rêves ne sont pas commandés, on ne les contrôle pas.
C'est peut-être un peu pour ça que dans l'autre chambre, Il y a en même temps les ailes de l'ange, les ailes sont blanches, mais en même temps, elles sont, vu l'ombre portée, elles sont noires sur le lit. C'est un peu les deux choses qui peuvent se passer, y compris hein, bon, en même temps dans les rêves. Et quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure, tiens, pourquoi tout à coup, hein, cette manière hein, bon, d'être occulté au niveau des oreilles par deux espèces de tampons qui peuvent de près ou de loin, hein, suivant la modernité, ressembler à des, hein, à des écouteurs, alors que ce ne l'est pas. Mais c'est une manière aussi pour être hein, confronté à soi-même, de ne pas entendre ce qui vient de l'extérieur, pour être vraiment dans son monde. Et son monde, l'ange plane, mais est-ce que c'est l'ange blanc, l'ange noir? Là, on s'est parfois laissé à une certaine, hein, sans parler de dérive, mais à une certaine poésie et ouverture dans les interprétations que l'on peut offrir.
Mais tout en restant aussi très open, parce qu'en fait, petite histoire, il y a aussi une robe de nuit, qui est la blanche, qui est la robe de nuit de ma maman. Qu'elle met sûrement sur des moments plus romantiques. Et en tout cas, dans la préparation de l'exposition...
Attendez, on va faire.
Les trois grandes vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, et ces trois vertus théologales sont la base aussi de la vie et de l'existence de l'hôpital. La plus importante, c'est la charité, certainement. C'est celle qui domine tout.
Ils ont un trait commun, tous les deux. Ils sont tous les deux fils de gendarmes. Et ils ont tous les deux connu les vacances à la mer, les vacances en camping, les vacances simples. Et ça, c'est une chose qu'on ressent davantage dans l'expression de Véronique à travers ses dessins. On voit hein, les vacances au bord de l'eau, très simples. Et il y a quelque chose dans cette simplicité qui raconte aussi la simplicité de leur enfance. Les moments heureux qu'on passait au bord de la mer. Ou...
Ah oui, une belle anecdote.
Donc je parlais juste de la robe de blanche qui est là, la robe de ma maman, robe de nuit de ma maman, très romantique, vraiment pour des occasions spéciales j'imagine, mais dans la préparation de l'exposition, j'avais en fait travaillé un corps de femme nue, mais vraiment complètement nue, on le voyait très bien et je l'avais mis en dessous du voile. Donc en fait on voyait à travers... dans la robe, il y avait tout d'un coup un corps nu, mais très explicite.
Oui, avec les poils avec, pubiens.
Voilà.
En ce qui concerne Véronique, une certaine mélancolie, elle n'est pas triste, hein, certaine peut-être nostalgie ou mélancolie, des vacances en famille ou des vacances au bord de l'eau. Mais on voit aussi dans certaines œuvres un petit garçon qui est Christian Rollet. Bon, c'est des vieilles photos. Alors, ce n'est pas vraiment des photos, elles sont grattées. C'est comme des traces du passé. Mais ce n'est pas des traces de moments difficiles, non. Ce sont des traces des moments heureux.
Et à l'extérieur, on trouvait ça vraiment... Voilà, c'est tout à fait ce qu'on veut montrer, ce qu'on avait en tête. Mais justement, en le mettant ici, on a trouvé que c'était trop explicite, qu'il ne fallait pas ça, que ce n'était pas non plus notre but de choquer, parce que justement c'est peut-être hein, on veut évidemment montrer des choses, on veut questionner des gens, mais on veut pas choquer.
De dévoiler trop vite d'une manière trop explicite un fantasme quoi. Ouais. Donc ouais. On a supprimé, ouais. On a gardé que l'événement un peu intemporel de cette robe de nuit qui pend avec son petit ruban et qui devient une espèce de perspective peut-être d'une autre chasuble ou d'une autre robe de nuit moins rugueuse ou hein, mais qui est du domaine du rêve et pas du domaine comme ça de l'appartenance physique.
En ça, ce que vous dites, Christian Rollet, vous définissez ce qu'est vraiment l'érotisme, c'est-à-dire la part absente.
Exact, ouais. J'y avais pas songé, ouais, sûr. Et qui laisse la place d'ailleurs hein, au reste. Et le reste, c'est, hein, on parlait tout à l'heure du rêve et du domaine, hein, bon, du rêve hein, bon, un vécu et non, hein, non vécu, ressenti ou simplement fantasmé, bon, on est dans ce domaine-là.
Ouais. Cette exposition s'appelle
Petite mort et grande vertu.
Les avez-vous observés travailler dans notre atelier?
Oui.
Comment font-ils?
Très bien. Ça veut dire que ça se fait naturellement. Je pense que ça se fait tout aussi naturellement que la manière dont les œuvres ont été réalisées. Je pense franchement que l'un perçoit l'autre et que l'autre perçoit l'un. Il n'y en a pas un qui domine l'autre. Il n'y en a pas un qui domine l'autre. On est vraiment dans une communication. Et j'espère, et c'est ce que moi j'ai ressenti en allant quelquefois à Lessines quand même, pour aller voir l'exposition actuelle, c'est qu'ils sont arrivés à pénétrer, c'est difficile Lessines, il y a un nombre de pièces, il y a un nombre de passés, il y a beaucoup de choses, c'est lourd de tout, ils sont arrivés, je pense, à communiquer justement cette manière qu'ils ont, eux, de percevoir l'art, et la communication de ce qu'ils ont envie de donner aux spectateurs, ou faire partager.
Y a-t-il aussi, comme à Lessines, dans votre galerie où nous parlons, à Oudergem, un érotisme travers le mot « petite mort » ?
Tout à fait, tout à fait. Il y a un tableau, personnellement, je l'ai appelé l'extase. Ben, ce n'est pas l'extase, c'est ce que moi j'avais ressenti. Eux appellent ça, elles appellent ça le bruit de fond de nos existences.
Et c'est le numéro 21,
on peut le voir. Le bruit de fond de nos existences, c'est très beau, c'est là. Et ça, c'est un fantasme peut-être, ou une réalité, ou une... qu'on peut retrouver à Lessines. On retrouve ce type de dessin à Lessines. Parce que c'est l'imaginaire là des religieuses, mais ici c'est une histoire d'hommes et de femmes. Voilà. Alors l'érotisme, oui. Au lieu de marquer par exemple l'extase, voilà, le mot que moi j'ai eu, le premier qui est venu dans ma tête, elle non, elle n'a pas voulu du tout. Elle a vraiment écrit le bruit de fond de nos existences. Je crois que ça dit beaucoup sur le couple.
Les désirs de maternité aussi, qui devaient traverser aussi les corps et les esprits, et qui se traduisent ici dans l'exposition de Christian Rollet et Véronique Pope par la présence à certains lieux de petites poupées chiffons qu'ils ont façonnées et qui, pour moi, traduisent en fait... ce désir, ce besoin de maternité.
Et quand on regarde mon mur du fond, qui est un mur à l'italienne, qu'ils ont composé eux-mêmes, en fonction de leurs petites histoires, parce qu'ils connaissent mieux, eux, tout ce qu'il y a à l'intérieur de leurs petits tableaux, ça commence à être des petits tableaux tout petits. C'est comme un envol. Ils l'ont voulu comme ça sur mon grand mur, ce qui est étonnant, parce que sur le grand mur du fond de la galerie, on s'attend à voir des grands formats. Eh bien non, ils l'ont fait comme un envol. Je pense que ça donne la légèreté à l'ensemble de l'exposition. Elle est comme à base du dessin. Elle est fine, l'érotisme il est suggéré. Tout est dans la suggestion, dans une certaine discrétion. Et je trouve que ça en fait la beauté.
Une exposition amoureuse ? Une exposition qui montre le désir, une exposition qui touche peut-être l'érotisme.
Je pense que c'est un peu des trois. Amoureuse, oui, c'est un couple à la ville, et c'est un couple aimant, avec de part et d'autre, d'ailleurs une part d'androgynie aussi. Enfin voilà, je trouve que c'est quelque chose qui, moi en tout cas, me frappe, mais ne me frappe plus parce que je les côtoie, mais en tout cas qui est très présent, qui est très beau en fait dans leur façon de fonctionner, que ce soit leur façon de fonctionner dans la vie, que ce soit leur façon de fonctionner dans leur atelier, dans la façon de s'exprimer aussi, puisqu'on a passé beaucoup de temps ensemble, et donc il y en a un qui commence à parler, l'autre enchaîne et puis l'autre revient. C'est un peu comme quand ils travaillent en fait, les duos.
Alors il y a des moments où ils prennent des anciennes gravures. Alors on efface le temps, non, on efface les traces, on ne laisse que des traces.
Donc sont posées sur un dessin qui représente un couple, une femme enlace un homme, et ils sourient tous les deux. Sur cette photographie sont déposées des feuilles, des petites feuilles, et sur ces feuilles on a un couple de petits squelettes articulées en...
Mais qui ne sont pas enlacées.
Non.
Elle suggère. Et puis, assez discrètement, Christian va intervenir au niveau de la couleur. Parfois, il me dit « je dessine aussi ». Mais dans le dessin que nous regardons actuellement, non. Il est intervenu sur la couleur, parfois un peu sur la matière, mais très peu.
Ils ont peut-être bêche. Et il y a aussi des petites fleurs oranges qui viennent compléter cette petite scène macabre.
Et amoureuse.
Oui.
L'amour du prochain. Mais au-delà de ces trois vertus théologales, il y a aussi toutes les autres vertus dont Christian et Véronique ont voulu parler. Et ces vertus qui sont là pour eux la générosité, la douceur, par exemple, ce sont des vertus terriblement importantes. Pour moi, pour l'équipe du musée, dans le monde contemporain qui est un monde de violence extrême, ça a été une manière aussi pour nous de transmettre un message et de dire halte à la violence du monde contemporain.
À l'hôpital Notre-Dame à la Rose, jusqu'au 10 mars, petite mort et grande vertu. À la galerie Marie-Ange Boucher, jusqu'au 17 mars, Imagine Your Life, avec Raphaël De Bruyne, Régine Van Damme, Marie-Ange Boucher, Christian Rollet, Véronique Pop. Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.